Merci beaucoup. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et puis remercier particulièrement le président Le Drut parce que finalement, il a déjà dit à peu près tout. Donc on va le redire un petit peu différemment, on va le décliner, mais on a eu l'exposé de cadrage a déjà eu lieu en fait. Alors pour ma part, je vais essayer de développer une seule idée qui consiste à dire le territoire et l'approche territoriale est une solution au global. C'est-à-dire aujourd'hui, la globalisation, pour être régulée, pour pouvoir éviter les crises, tout en continuant, eh bien, il faut du territoire. Autrement dit, ça fait déjà longtemps qu'on a dépassé l'opposition locale-globale, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le local, et plus précisément le territoire, est la solution pour la régulation du global. Alors, pour pouvoir le préciser, tout d'abord un petit point d'histoire. Il y a une hypothèse que l'on peut faire aujourd'hui sur le long terme, qui est que, avec les crises que l'on connaît aujourd'hui, on est peut-être, vous savez qu'en économie, on est toujours dans des cycles, on est peut-être en train de boucler un cycle, une parenthèse, mais une très grande parenthèse, une parenthèse industrielle. Une parenthèse industrielle qui a commencé, grosso modo, au milieu du XVIIIe siècle, autour de 1750, avec la révolution industrielle en Angleterre. Et le paradigme de l'industrie s'est installé dans notre monde, s'est développé, et aujourd'hui, c'est lui qui est en crise. Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique principale du paradigme industriel ? Eh bien, c'est la production standard d'objets reproductibles, avec cette idée de production générique. Alors, la production générique, ça veut dire on fait des objets tous les mêmes. Ces objets tous les mêmes sont en concurrence à l'échelle mondiale les uns par rapport aux autres. Et il y a une grande théorie que les économistes connaissent bien, qui est la théorie des avantages comparatifs, qui dit que à l'échelle mondiale, on doit toujours se spécialiser là, sinon, où on est le plus productif, au moins on est le moins mauvais. Alors, vous savez, dans la tradition, c'était un économiste anglais qui s'appelle David Ricardo, qui au début du 19e siècle avait expliqué ça en disant, prenez un exemple célèbre entre l'Angleterre et le Portugal et le drap et le vin. Et il explique que donc chaque pays doit se spécialiser dans un produit. Alors cette idée-là a guidé le monde des échanges, que ce soit pour les produits agricoles d'ailleurs comme pour les produits industriels, depuis 1817, pour être précis, hein, quand Ricardo a développé ça. Et c'est aujourd'hui l'idée qui est intéressante, c'est que probablement ça ne fonctionne plus. Alors pourquoi ça ne fonctionne plus ? Eh bien, vous imaginez qu'aujourd'hui, on a des écarts qui peuvent être de 1 à 25, voire de 1 à 50 pour les produits standards, entre les pays à salaire élevé et les pays à bas salaire. Pendant longtemps, on a eu une avance technologique. Aujourd'hui, on se rend compte que pour un certain nombre de productions, les pays à bas salaire arrivent à avoir des niveaux de qualité compétitifs. Alors je vous prends un exemple que je donne souvent, parce que ça m'avait frappé quand j'avais fait des enquêtes dans l'ouest de la France, dans le Choletais, parmi les fabricants de chaussures. Alors eux, ils me disaient, c'est simple, le prix où les chaussures de l'Asie du Sud-Est arrivent sur le marché français, c'est le prix où nous, on achète la matière première. Autrement dit, pour être compétitif dans ce cadre de la compétition standard, eh bien, il faudrait que l'on soit, il faudrait que les ouvriers viennent travailler gratuitement. Et en général, ils sont pas d'accord, évidemment. Enfin, autrement dit, c'est pas la peine de continuer à lutter. On n'est plus dans les mêmes catégories. Quand vous pensez que pendant longtemps, chez Moulinex, on a fabriqué des cocottes minutes en direction du marché chinois, aux 25 fois plus cher que ce que produisaient les Chinois pour leur propre marché. Mais tout ça a été protégé, tenu à bout de bras, etc. On voit bien que ce genre de situation n'est plus tenable. Alors, dans le cas de mes gens du Choletais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont fait autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre des chaussures, ils ont vendu de la mode. Ils ont décalé leur production, ils ont fait des collections. Et ils ont incorporé à l'intérieur de leurs chaussures un certain type de qualité qui leur a permis de se différencier. Et c'est là où on voit un peu la clé du système. C'est que pour sortir d'un monde de concurrence où on va vers le chaos si on reste uniquement vers la concurrence des produits génériques. La seule solution, c'est de se trouver des rentes de situation par la différence, autrement dit de se différencier. C'est là où on voit que la clé du développement, c'est de créer de la différence. Et à ce moment-là, on ne peut plus parler d'avantage comparatif, mais peut-être d'avantage différenciatif. Parce que la théorie des avantages comparatifs, ça veut dire qu'on suppose qu'on peut isoler des pays, clairement, et qu'on peut isoler des produits, que ces produits sont comparables. Or, vous voyez bien que, dans les exemples que je vous ai donnés, il n'y a plus de comparaison possible à cause des écarts de coûts, etc. Donc, il faut trouver, au contraire, le moyen de ne plus comparer. Et donc, j'ai coutume de dire que il y avait une première règle qui était, y compris pour les stratégies des territoires, je fais comme mon voisin, mais si possible moins cher. Ça, c'est le comportement dominant. Hein, comme mon voisin, mais si possible moins cher. Et là, il faut essayer de faire ce que mon voisin ne sait pas faire. Ce qui n'est pas la même chose. Et c'est ça, la différenciation. Alors c'est là, évidemment, où vous avez plusieurs éléments. C'est que là, le monde agricole et rural a quelque chose à dire là-dessus. Parce que justement, on sort du paradigme industriel dont je parlais tout à l'heure. Et alors évidemment, vous avez cité toutes les AOC tout à l'heure. C'est typique. Les AOC, c'est un excellent exemple de différenciation. C'est-à-dire, on met de l'origine dedans. La différenciation optimale, c'est l'objet unique au monde. Parce qu'un objet unique au monde, évidemment, il n'a pas de concurrence. Alors il faut essayer d'être unique au monde, en ayant sa propre personnalité. Et là, on commence à voir que l'on va glisser des territoires comme des collections d'entreprises à des territoires comme des collectifs humains. Et là, c'est une différence qui n'a pas toujours été comprise. Longtemps, on dit les territoires, c'est finalement, on va voir la compétitivité des territoires à l'aune de la compétitivité des entreprises qui sont posées dessus. Mais comme vous l'avez fait remarquer, il y a des entreprises qui ne se préoccupent pas du territoire. On appelle les entreprises nomades, c'est-à-dire elles utilisent le territoire parce qu'il y a des facilités à un moment ou à un autre. Mais si elles peuvent s'en aller pour trouver de meilleures conditions, elles partiront. Donc il n'y a pas d'ancrage territorial. Donc vous avez toute une série d'entreprises sur des territoires qui ne sont pas ancrées territorialement. Donc les territoires ne sont pas des collections d'entreprises. Ce sont des collectifs humains et qui ont une production de sites. Alors ça veut dire quoi ? Avoir une production de sites, ça veut dire que un territoire va faire l'objet d'une concertation entre les acteurs, et cette concertation entre les acteurs va leur permettre de produire quelque chose qui émane du territoire et qui est donc particulier, spécifique à ce territoire. C'est le résultat de ce dialogue entre les acteurs du territoire. Alors je reprends l'exemple des AOC. Un AOC, c'est un processus pur de concertation d'un collectif humain. Pourquoi ? Ben parce que en moyenne, pour en obtenir une, c'est autour de 5 à 6 ans, quelquefois beaucoup plus. Et puis, il y a des acteurs différents qui se parlent et qui s'engueulent. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas évident, parce qu'il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur le cahier des charges et puis il faut se mettre d'accord sur le périmètre. Donc c'est long. Il y a des allers-retours avec l'INAO, il y a une construction sociale, en fait, de cette qualité spécificité. Cette construction sociale, eh bien, elle s'élabore doucement, lentement. Et donc, on n'est pas dans la performance immédiate de court terme des entreprises, on est dans la construction de quelque chose qui fait qu'au fond, on est obligé de réfléchir à l'objectif de l'économie. Je le remarque tout de suite, mais au fond, l'objectif de l'économie, si c'est de produire du profit pour les entreprises, ben on va avoir un certain nombre de surprises parce que souvent ce profit est volatile, c'est-à-dire qu'il va être produit quelque part et puis il va être dépensé ailleurs. Fondamentalement, si on revient à l'objectif de l'économie, l'économie c'est la réponse aux besoins des gens. C'est-à-dire, s'il y a des besoins, il faut tenter de répondre à ces besoins. Pendant toute une période, notamment pour l'histoire récente après la guerre, on avait des besoins de reconstruction. On avait besoin d'alimentation immédiate. Et donc, on savait très bien que répondre aux besoins, c'était augmenter la productivité de l'agriculture, par exemple, de façon à pouvoir nourrir les hommes, comme on dit. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres besoins qui font jour. Donc, il faut être attentif à ces besoins-là, de façon à pouvoir y répondre. Et à ce moment-là, on voit que encore une fois, que le territoire intervient comme étant un peu la matrice de cette réponse aux besoins des gens. Alors, si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail, je dirais que le territoire, c'est une notion complexe. Et qu'en particulier, souvent, on l'emploie à toutes les sauces. Alors, il y a le territoire vu par les élus en particulier, c'est souvent le territoire de leur mandat politique. Mais ce n'est pas la même chose que le territoire vécu par les gens, par le sentiment d'appartenance qui va transcender éventuellement les découpages. C'est bien qu'on est obligé de faire avec deux catégories de territoires. Alors longtemps, je me suis dit, il y en a un qui est le bon et l'autre qui n'est pas le bon. Mais en fait, on ne peut pas distinguer les deux. C'est le territoire donné et le territoire construit. Le territoire donné, c'est le territoire prédécoupé à l'avance, cadre dans lequel on va raisonner. Alors on pourrait dire, c'est présupposé un territoire comme ça, c'est artificiel, et puis c'est uniquement une question de taille, d'échelle, etc. Mais en même temps, vous remarquerez que tous les projets partent en fait de la nécessité qu'il y ait des institutions, qu'il y ait des budgets, et donc qu'il y ait du territoire institutionnalisé au départ pour pouvoir ne serait-ce que financer les projets. Donc on a une base de territoire donné, et là-dessus, on construit, de façon plus ou moins éphémère d'ailleurs, pour répondre à des besoins, le territoire construit, qui lui apparaît comme étant une mécanique aujourd'hui d'organisation, y compris économique. La définition que je donne souvent de territoire construit, c'est que c'est finalement un concours d'acteurs qui cherchent d'abord à définir et ensuite à tenter de résoudre un problème commun dans un espace géographique déterminé. Ça veut dire qu'il y a une phase d'abord de révélation du problème et ensuite une phase de solution. Autrement dit, cette première phase, qui est souvent occultée, elle est très importante, c'est-à-dire un territoire qui se reconnaît comme tel et qui cherche à savoir quelle est sa différence par rapport à l'extérieur. Mais il faut d'abord qu'il réfléchisse à ce qu'il est, qu'il comprenne le génie des lieux. C'est-à-dire, il y a une phase de diagnostic. Alors, vous savez, aujourd'hui, les agents de développement font des diagnostics. Alors, c'est menace, opportunité, enfin, c'est toujours les mêmes trucs. Mais en gros, nous, on a fait faire ça à des étudiants pendant des années. Vous prenez une feuille de papier, vous faites deux colonnes, et puis avantage d'un côté, inconvénient de l'autre. Bon, c'est un petit peu... Alors ça, c'est le diagnostic qui ne permet de voir que ce qui est apparent. Et en fait, vous ne voyez rien. Quand vous voyez que ce qui est apparent, vous ne voyez rien. Alors que tout le problème du développement territorial, c'est la démarche de révélation de ce qui est caché. Et ce qui est caché, par définition, c'est donc ce qui ne se voit pas immédiatement, ce qui demande un processus de concertation, de recherche de sa propre identité. Il faut essayer de comprendre ce qu'on est quand on est dans un territoire constitué. Que font dans les AOC, quand on est une population d'acteurs essaye de déterminer qu'est-ce qu'ils pourraient valoriser comme produit de qualité, ils font ce travail. C'est un travail long. Donc il faut accepter que cette phase de diagnostic soit longue. Et quelquefois, c'est inattendu. Je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, il faut essayer, si je dis qu'il faut essayer de déterminer les ressources territoriales, c'est que ces ressources sont donc cachées, elles sont souvent inattendues, et quelquefois, elles apparaissent comme étant la vision positive d'inconvénients. Alors je vais essayer d'expliquer un peu ça. Il faut se méfier avec les ressources. Les ressources, quelquefois, elles sont perverses. Il n'y a rien de plus pervers que d'avoir du pétrole, par exemple. C'est-à-dire qu'un pays qui a du pétrole, il est foutu, si je schématise. C'est ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire parce qu'on a déterminé que dans les années 50, quand on a trouvé du pétrole au large des Pays-Bas, ça a fait baisser le PIB. Mais en général, la malédiction du pétrole, c'est bien connu. C'est-à-dire, vous prenez un autre exemple, le pays le plus riche du monde, à l'aune de ce type de ressources, je vous informe que c'est la République démocratique du Congo, qui a le PIB par habitant parmi les plus faibles du monde, mais qui a la quantité de richesse la plus extraordinaire qui existe, hein, dans tous les minerais, tout ce que vous voulez. Donc vous avez cette espèce de paradoxe de la ressource, où apparemment, quand vous avez de grandes ressources, ça peut vous empêcher de vous développer. Et c'est souvent quand on n'en a pas qu'on est obligé de se mobiliser. Alors évidemment, c'est un discours un peu optimiste et tout, mais à bien y réfléchir, souvent les régions handicapées vont pouvoir se mobiliser pour pouvoir trouver cette ressource. Alors je vais, dans le même ordre d'idée, donc chercher des ressources inattendues. Je me souviens d'une réunion à la constitution d'un PNR dans le sud de la France, et au cours de la discussion, il y a une des personnes qui dit « mais moi, vous savez, chez nous, on n'a rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» J'ai dit « Vous avez rien ? Parfait, vendez-le. » Alors évidemment, c'était une boutade. Mais c'est-à-dire, vous avez rien, c'est peut-être ça, votre ressource. Alors après, on a creusé un petit peu. Puis j'ai dit, rien, ça veut dire faible densité, ça veut dire calme, ça veut dire paysage, ça veut dire tout un tas d'avantages que recherchent peut-être les urbains. Et que là, vous avez peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, et qui, si vous le regardez, à la limite, la déprise agricole, si on la regarde du côté négatif, eh ben, c'est une catastrophe. Si on essaye de positiver, comme on dit dans certains messages publicitaires, eh bien, à ce moment-là, tout d'un coup, apparaît, éventuellement, pas toujours, ça marche pas à tous les coups, mais apparaît des avantages. Autrement dit, il y a toute une démarche qui permet de découvrir quelquefois des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Je vous donnais encore un autre exemple, qui est la ville de Dinan en Belgique, qui est l'origine de la dinanderie, d'ailleurs. Et dans cette ville, il y a aujourd'hui, autour des instruments de musique et autour de la musique en général, pratiquement un millier d'emplois, qui a été construit comme ça. Alors d'où ça vient, ce millier d'emplois autour de la musique? Ça vient du fait que M. Adolphe Sax, inventeur du saxophone, est né dans cette ville. Mais il a quitté cette ville pour ne jamais y revenir à l'âge de 6 mois. Donc il n'avait probablement pas encore inventé le saxophone. Mais ça a suffi. C'est un fil rouge qui a été tiré ensuite en disant « nous, on a décidé, on va être la ville de la musique ». Et ça se construit quasiment ex nihilo. Mais c'est pour vous dire que si on a cette vision de la ressource territoriale, c'est pas une ressource, c'est une ressource parfaitement renouvelable, c'est quasiment infini. C'est-à-dire que c'est recherché dans la culture, dans la qualité, dans les paysages. Alors du coup, on peut convoquer des tas d'éléments qu'on ne convoque pas dans le paradigme industriel. On peut convoquer les paysages, l'histoire, la culture, etc. La ville de Mons en Belgique, par exemple, pour rester dans les exemples belges, c'était la capitale. C'était la capitale du borinage et donc des charbonnages belges. On a éradiqué les charbonnages. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'emploi, etc. Eh bien, Mons est candidate pour être capitale culturelle de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va reprendre le problème par un autre bout. Et voir quelles sont les valeurs que nous avons, et non pas ce qu'on n'a plus. Et à partir des valeurs que nous avons, eh bien, comment déterminer ces spécificités et cette différence. Donc vous voyez que, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, la ressource territoriale, il y a un gisement quasi infini pourvu qu'on s'y attelle. Et c'est une méthode, en fait, la recherche de la ressource territoriale. Alors qui peut aboutir ensuite sur des combinaisons de ressources. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette notion qu'on a élaborée avec des collègues de panier de biens, où finalement, on va combiner plusieurs... C'est là où on est, comme vous l'avez dit d'ailleurs, on n'est plus dans le sectoriel, on est dans l'intersectoriel. C'est-à-dire qu'on va essayer de combiner un certain nombre de produits pour donner naissance à une offre territoriale. C'est-à-dire que c'est le pays qui offre un ensemble. Et c'est un cocktail, en quelque sorte, qui va être unique. Alors, c'est peut-être pas les produits qui vont être uniques, mais c'est le cocktail qui va être unique. Et là, vous avez quelques ressources qui sont particulières. Alors, c'est ce qu'on appelle des opérateurs. Alors, je vous prends l'exemple du tourisme, par exemple. Le tourisme, c'est mal vu, hein, en général. Parce que, d'abord, c'est un peu... Ça fait pas sérieux, mais c'est quand même un des premiers postes à l'exportation en France, hein. Et puis, il y a tourisme et tourisme. Mais le tourisme a une caractéristique particulière, c'est qu'il ne peut pas se vendre lui-même. C'est-à-dire qu'obligatoirement, il faut qu'il vende quelque chose. Donc, il est forcément collé à d'autres produits. Alors, il va vendre des produits agricoles de qualité, il va vendre des sites, du patrimoine, des paysages, etc. Et il va servir de lien pour vendre tout ça, et si possible, en même temps, et croiser. Donc, il va avoir un rôle d'opérateur. Vous avez d'autres, en matière culturelle, par exemple, des écomusées, etc., vont pouvoir jouer aussi ce rôle d'opérateur. Et donc, il y a des stratégies également d'agglomération des ressources qui peuvent exister. Alors, voilà, maintenant, il reste à se dire que s'il y a pour les territoires qui se constituent des stratégies possibles autour des ressources territoriales, il y a aussi des tendances aujourd'hui à l'écartèlement des territoires. Et là, c'est un problème que je vais évoquer en quelques mots, parce que les stratégies territoriales peuvent continuer à jouer pour ressouder les territoires. On a un phénomène aujourd'hui, d'ailleurs c'est une statistique que Jean Viard, qui va s'exprimer cet après-midi, avait indiquée. Il y a, en 1950, chaque Français faisait 4 km pour aller de son domicile à son travail, aller-retour, par jour. Et aujourd'hui, c'est 45 km. Donc ça veut dire que vous avez un découplement des bassins de vie et des bassins d'emploi. Découplement des bassins de vie et des bassins d'emploi, ça va poser des problèmes grandissants, parce que du coup, vous avez des endroits où on a créé des emplois, où on crée de la valeur ajoutée, qui crée du revenu, mais ce revenu va aller se dépenser à 50 km. Et oui. Et dans de très fortes proportions, c'est-à-dire de plus en plus. Et vous avez donc aujourd'hui ce qu'on appelle l'économie résidentielle, c'est-à-dire qui se développe. Alors qu'est-ce que c'est que l'économie résidentielle? C'est la stratégie des territoires qui, au lieu d'être le lieu où on produit, est le lieu où on dépense. Et que, dans certains cas, il vaut mieux être le lieu où on dépense l'argent plutôt que le lieu où on produit. Mais alors, le problème, c'est que la dépense, il faut bien produire aussi, de temps en temps, quelque part. Mais on va avoir un problème de localisation et de régulation de la localisation entre le lieu où on produit et le lieu où on dépense. Alors, soit dit en passant, s'il y a la disparition de la taxe professionnelle, ce ne sera pas tellement un problème de ressources pour les communes, parce qu'à mon avis, les communes trouveront des ressources ailleurs, même si ça pose des problèmes. Je pense que le problème principal, c'est la régulation du lieu où on produit et la régulation de la localisation des entreprises. Parce que là, on n'a plus de repères. Alors, il y a un véritable problème de localisation. Mais finalement, jouer la carte du résidentiel ou jouer la carte du productif, c'est une façon de dichotomiser l'économie, de dire qu'il y a deux sortes de... Maintenant, il y a deux sortes de territoires, parce que c'est ce qui semble s'affirmer. Et je veux dire que de ce point de vue-là, produire des ressources territoriales, c'est faire, en fait, sur place de la réponse aux problèmes et aux besoins des acteurs. C'est donc relier résidentiel et productif. C'est un peu réparer, en quelque sorte, la distorsion qui est en train de se produire entre les deux types d'espaces. Alors on pourra en reparler s'il y a des questions sur le sujet. Je voudrais terminer en disant, au fond, ce qu'on est en train de décrire, c'est une hypothèse un peu hardie, mais qui serait l'hypothèse du capitalisme territorial. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on prend le mot capitalisme comme étant la définition du système économique fondé sur le marché. Il n'est pas question de dire, à mon avis en tout cas, que l'économie territoriale va renverser ce système de marché, ou va être une alternative à ce système de marché, mais va être plutôt un élément régulateur indispensable à la poursuite de la création de richesses dans le cadre d'un capitalisme. Mais c'est un capitalisme qui peut être régulé par la recherche de la spécificité. Et finalement, la recherche de la spécificité, c'est une réaction par rapport au risque de perte de biodiversité. Vous l'avez évoqué aussi dans votre présentation. C'est-à-dire que, au fond, si on laisse aller le développement générique, il y a un appauvrissement généralisé du monde. Donc la recherche de spécificité, le retour au territoire, c'est un moyen de réguler ce système et de maintenir une biodiversité économique et humaine. Voilà, merci.